la Société de philosophie de Bordeaux a le plaisir de recevoir Chantal Jacquet. Chantal Jacquet est professeure de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est spécialiste de la philosophie de Spinoza et du XVIIe siècle. Elle a publié de nombreux ouvrages sur Spinoza et aussi pas mal de collectifs avec un trio, Pascal Sévrac, Ariel Suami et donc Chantal Jacquet. Et puis, il y a quelques années, elle a fait paraître une philosophie de l'odorat et aujourd'hui, elle vient nous parler d'un ouvrage qui s'intitule « Les transclasses ou la non-reproduction » où un certain nombre de concepts spinozistes sont utilisés pour essayer d'expliquer la mobilité sociale de certains individus, comment certains traversent-ils les classes et d'autres pas. Alors je lui donne la parole.
Merci beaucoup Kim, et merci pour cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous dans cet endroit si agréable. Alors ma réflexion initialement est née du désir d'éclairer ce qu'on pourrait appeler un point aveugle de la théorie de la reproduction sociale, dont Bourdieu et Passeron ont analysé rigoureusement les mécanismes. Alors, j'ai voulu me pencher sur les cas qu'ils reconnaissent eux-mêmes comme étant des exceptions. En effet, dans Les héritiers, les deux auteurs prennent soin de préciser que l'influence des facteurs sociaux de différenciation des classes ne revêt pas la forme d'un déterminisme mécanique, bien que parfois on ait eu tendance à figer leur pensée, à considérer que c'est un déterminisme strict. Et Bourdieu et Passeron envisagent deux types d'exceptions qui confirment la règle de la reproduction sociale. Exception dû à la dilapidation de l'héritage, d'une part, et d'autre part, à l'ascension sociale d'enfants originaires des milieux défavorisés qui échappent à la sélection scolaire. Alors, Bourdieu et Passeron pensent que dans ces cas-là, c'est sans doute en raison d'une plus grande adaptabilité aux exigences de l'enseignement et d'un environnement plus favorable. Mais lorsqu'ils évoquent ces cas, c'est à la marge et de façon extrêmement elliptique. Néanmoins, s'ils n'approfondissent pas ce point, ils invitent cependant à ouvrir les investigations en soulignant, je cite, la nécessité d'étudier plus précisément les causes ou les raisons qui déterminent ces destins d'exception. C'est Les héritiers, page 22. Alors, si je fais cette précision, c'est pour montrer que le titre de mon livre, La non-reproduction, ne s'inscrit pas en faux contre la théorie bourdieusienne de la reproduction, puisqu'il y a deux manières d'être contraire, soit par la contrariété, soit par la contradiction, donc ça ne contredit pas cette règle forcément, mais il faut se pencher sur ce qui apparaît comme une anomalie, comment en rendre raison, car ce n'est pas l'un des paradoxes les moins grands que de constater que l'un des théoriciens majeurs de la reproduction, Bourdieu, a échappé lui-même dans les faits à cette reproduction, puisqu'il est issu d'une famille extrêmement modeste, père facteur puis receveur des postes, et donc les origines plus lointaines, milieu agricole. Comment expliquer alors que des individus comme Bourdieu lui-même ne reproduisent pas forcément les comportements de leur classe sociale et passent d'une classe sociale à l'autre? Ça, c'était le point de départ de ma réflexion. Et plus largement, bien sûr, l'enjeu philosophique qui se profile derrière cette interrogation, c'est celui de la nature de la puissance humaine et de la sphère d'extension de la liberté. La non-reproduction met en jeu la possibilité de l'invention d'une existence nouvelle au sein d'un ordre établi, sans qu'un bouleversement social ou une révolution collective se soit produit. C'est dans ce cadre-là que j'essaye de penser à un changement social et la constitution des individus qui opère ce changement, ce passage. Alors évidemment, ce désir de comprendre ces trajectoires atypiques se heurtait à un certain nombre d'obstacles épistémologiques et je voudrais simplement rappeler deux difficultés majeures auxquelles le projet se heurtait. La première difficulté a trait à la nature de l'objet, qui requiert une pensée des cas singuliers. Et dès lors, la question était de savoir comment la philosophie, qui entend penser par concept, pourrait rendre raison de la particularité. Problème très important que déjà Spinoza se posait, comment arriver à déduire une essence singulière de la substance, de la nature tout entière, des attributs de Dieu. Le concept, en effet, doit recueillir le divers, en tout cas, et l'unifier en synthétisant ce qu'il a de commun avec les autres cas d'espèce. Faute de quoi, il s'éparpille dans la multiplicité. Donc la question, c'est de savoir s'il est vraiment possible de spéculer sur la non-reproduction sans se perdre soit dans les nuées de l'abstraction, soit dans les marais de l'empirie. Comment, au fond, en rendre raison d'un point de vue philosophique? Est-ce que c'est possible d'élaborer un concept du singulier, de l'individuel, dans ce qu'il a d'irréductible? Peut-on viser une essence intime, en somme, saisir une liberté dans son incarnation individuelle? Alors ça, c'était la première difficulté à laquelle se heurtait l'entreprise. Alors pour résoudre cette difficulté, pour essayer du moins de la contourner, cela impliquait de forger une méthode d'approche nouvelle, en prenant appui sur des instruments de pensée, empruntés notamment à des domaines qui ont en commun l'aptitude à saisir le singulier en lui donnant une portée universelle. Donc recours au concept, certes, mais prendre appui sur des domaines qui permettent de penser la singularité sans que cette singularité soit quelque chose d'hermétique à l'approche et qu'elle puisse avoir valeur universelle. Alors, au tout premier chef, la réflexion philosophique que j'ai menée s'est inspirée des fictions littéraires, un premier moyen de penser des cas singuliers, puisque les fictions littéraires offrent parfois des exemples de non-reproduction. Alors, notamment, j'ai beaucoup pris appui sur Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, mais aussi sur Martin Eden de Jack London, donc sur des fictions mettant en scène le passage social d'une classe à l'autre, généralement donc dans le cas de l'ascension, ce qu'on appelle l'ascension sociale, parce que c'est plus difficile à expliquer que ce que l'on appelle le déclassement. Alors, la philosophie, évidemment, ne peut pas se passer dans ce cas de la littérature qui lui fournit un champ d'expérience et d'hypothèses extrêmement riche et d'une justesse, à mon avis, encore trop souvent insoupçonnée. La spéculation a également pris appui sur des romans plus particulièrement autobiographiques de transclasse. Pas seulement des fictions, mais des romans qui mêlaient approche littéraire et réflexion théorique, avec un recul réflexif, comme Black Boy de Richard Wright ou Suis-je le gardien de mon frère de John Edgar Wideman. Roman particulièrement intéressant puisque il s'agit d'une réflexion croisée sur le destin de deux frères vivant dans le ghetto noir de Pittsburgh. Destin de deux frères radicalement différents puisque l'un, l'écrivain, est devenu universitaire et ensuite romancier, et l'autre, même père, même mère, même condition économique et sociale, il a fini prison à vie, donc derrière les barreaux, pour un braquage qui a mal tourné. Mais au-delà de ces romans autobiographiques de transclasse, qui reposent donc sur une part de fiction, il m'a semblé nécessaire et intéressant de privilégier dans la réflexion des récits qui se présentent eux-mêmes comme auto-socio-biographiques. L'expression est de Annie Ernaux. Donc, des récits comme ceux qu'Annie Ernaux mène dans La Place ou La Honte, mais récits auto-socio-biographiques comme ceux de Didier Ribon, Retour à Reims, ou, pour ne pas rester dans l'Hexagone, ceux de Richard Hogarth, 33 Newport Street, autobiographie d'un intellectuel issu des classes populaires anglaises. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'autobiographie ou la, la fiction réflexive et ses auto-sociobiographies, eh bien, elle tient essentiellement au fait que ces auteurs ont à cœur de penser la vie ou le destin d'un individu en relation avec leur milieu, comme une production du social, et non pas simplement comme l'avènement d'un moi coupé de toute détermination extérieure. Donc, à la différence de l'autobiographie qui a parfois tendance à imposer l'image réductrice d'un auteur qui parle de lui, le travail d'écriture auto-sociobiographique prend la forme d'un récit où il ne s'agit pas tant de retrouver le moi, de le reconstituer, que de le perdre, ou plutôt de le resituer au sein d'une réalité plus large, hein, d'une condition commune ou d'une souffrance sociale partagée, le cas échéant. Et dans ce cas, le cas de l'autosociobiographie, le hiatus apparent entre la singularité de l'exception et l'universalité du concept s'estompe, puisqu'à travers l'individu s'exprime toutes les mêmes conditions, pour parler comme Montaigne, et se dessine ce qu'on pourrait appeler une anthropologie en situation. Donc, à ce niveau-là, peut-être l'un des premiers apports méthodologiques de mon travail, qui peut être discuté, bien sûr, c'est d'avoir opéré une alliance spéculative entre philosophie, sociologie et littérature. Voilà comment, en tout cas, j'ai essayé de contourner la première difficulté. Alors, la seconde difficulté, c'était de produire un concept philosophique qui permette d'appréhender la non-reproduction sociale en échappant à ce qu'on pourrait appeler les écueils idéologiques qui empêchent de la penser autrement que comme soit un phénomène miraculeux, soit un phénomène monstrueux, à travers la figure glorieuse du self-made man, fils de ses œuvres, donc quelque chose de prestigieux et miraculeux, ou quelque chose de monstrueux à travers la caricature piteuse du parvenu ridicule, hein, ou du social traître qui renie ses origines. Et à cet égard, il m'a semblé nécessaire d'opérer une forme de neutralisation du problème, parce que l'objectif n'est pas de valoriser ou de dévaloriser les exceptions à des fins politiques, hein, pour montrer par exemple qu'une société admet une grande mobilité sociale ou qu'au contraire elle est conservatiste. L'objectif, c'était plutôt de comprendre les cas singuliers et de les désigner objectivement en les englobant sous un concept dépouillé de toute connotation axiologique. En effet, mis à part les périphrases, mobilité sociale, ascenseur social, changement de classe sociale, aucun terme rigoureux n'existe pour nommer avec précision ceux qui ne reproduisent pas le modèle de leur classe sociale. La mobilité sociale est évoquée à l'aide de métaphores spatiales du haut et du bas, hein, qui sont chargées d'une teneur morale, ou d'une valeur en tout cas. Cette mobilité est décrite soit comme une ascension, soit comme un déclassement, selon le sens selon lequel elle s'effectue, et elle est présentée souvent de façon péjorative ou au contraire laudative, selon le sens que chacun retiendra. Et même l'expression « transfuge de classe » qui est la plus souvent employée dans la sociologie française, cette expression n'est pas exempte de tout jugement de valeur. Parce qu'elle reste quand même liée à l'idée d'une fuite, d'une désertion, voire à l'idée de trahison. Le transfuge, je rappelle que c'est par excellence une personne qui change son allégeance à l'égard d'un pays ou d'un parti politique, qui va vers un autre et est toujours suspecté d'être un renégat. Et donc, pour donner une existence objective théoriquement légitime à ceux qui ne reproduisent pas le destin de leur classe d'origine, il convenait de changer de langage et de produire un concept bannissant les termes métaphoriques ou normatifs. Et c'est pourquoi j'ai forgé le néologisme de transclasse pour désigner l'individu qui opère le passage d'une classe à l'autre, hein, en forgeant ce néologisme sur le modèle du mot transsexuel. Trans ici, évidemment, ça ne marque pas le dépassement ou l'élévation, mais le mouvement de transition, de passage de l'autre côté. Donc c'est plutôt en me basant sur le latin trans, qui signifie de l'autre côté, que j'ai forgé ce néologisme pour penser le transit entre deux classes. Alors l'intérêt de ce concept, c'est de mettre, à mon avis, l'accent sur la dimension du passage. Et pas tant le résultat, hein, la mobilité comme un fait acquis, mais la dimension du passage avec toutes ses difficultés et ses implications. Et dès lors, le concept de transclasse permet de penser le mouvement de transition d'une classe à l'autre comme une forme de ce que les Américains appellent le passing. À l'origine, le passing s'est répandu aux États-Unis chez les Noirs métisses de complexion claire, ceux qu'on appelait les sans-mêlés, et donc dont la peau est blanche, et qui se font passer pour blancs dans l'espoir d'échapper à l'esclavage au départ, et puis ensuite de connaître une vie meilleure. Donc le passing, c'est une pratique qui repose sur une transgression des frontières, un passage qui est un se faire passer, et qui permet de subvertir le déterminisme social de la race par le franchissement de ce que les Américains appelaient la color line, la ligne de couleur. Alors ça s'apparentait parfois à un tour de passe-passe, une supercherie dénoncée comme imposture et sévèrement sanctionnée lorsque ce passing était révélé. Alors, ce mot de passing, qui a été rendu par le terme de passe-blanc en Louisiane, c'est difficilement traduisible en français, mais ça s'est, aux États-Unis, étendu par la suite à toute pratique de transgression identitaire, notamment sexuelle, par exemple un homme passant pour une femme, ou à l'inverse un gay passant pour hétérosexuel, pour se protéger. Et donc, dans le passing, il s'agit de changer de monde en apparence, de se faire le passeur de soi-même, d'escalader les frontières entre des univers séparés. Et donc, le néologisme de transclasse restitue ce mouvement du passing, du transit entre deux classes. Et d'ailleurs, dans la langue anglaise, l'expression de class passing a été forgée pour exprimer ce phénomène de changement social. On n'a pas des mésaphores, on parle de class passing, par analogie avec le passing initial qui concernait essentiellement les Noirs. Et le passing, qu'on pourrait traduire aussi par le passe-classe, le passing s'englobe aux États-Unis toutes les formes de passage, aussi bien celles qui sont valorisées en tant que posture légitime, par l'American Dream notamment, comme le changement de classe sociale, que celles qui sont rejetées en tant qu'imposture, ou du moins qui l'ont été, comme le changement de sexe ou de race. Alors, même si le class passing est moins stigmatisé par l'opinion et n'a pas le caractère aussi clandestin et risqué du racial passing ou du gender passing, le passing n'en conserve pas moins un aspect dissimulé quand on a affaire à un changement de classe sociale, parce que l'origine sociale première et son cortège de comportements et d'habitudes sont recouverts ou métamorphosés, c'est à discuter, par les évolutions ultérieures et n'apparaissent pas immédiatement. Le class passing implique en effet un travail de métamorphose, un travail d'adaptation sociale au nouveau milieu. Et toute la question centrale, c'est de savoir comment s'effectue cette métamorphose, ce passage, c'est-à-dire quelles en sont à la fois les causes et les effets. Alors, dans mon livre, il y a une première partie qui est consacrée à l'analyse des causes de ce passage improbable, l'autre qui est davantage consacré aux effets du passage sur la constitution des individus. Donc je ne vais pas reprendre le fil de ces deux parties dans le détail, Je voudrais simplement insister sur deux points concernant l'analyse des causes et d'autre part sur les effets qui résultent de ce passage. Alors d'abord, au chapitre des causes, l'examen de la non-reproduction sociale, du passage de classe, invite à sortir de schémas simplistes, comme celui du self-made man, d'où la toute-puissance de la volonté, le fameux « quand on veut, on peut », de la bonne fortune ou de la chance. Ce sont finalement des éléments que l'on met en avant de manière idéologique, sans qu'on puisse comprendre comment quelqu'un aurait pu se faire tout seul, comment se fait-il qu'il puisse disposer d'une volonté, d'une ambition, puisque si toute ambition est ambition de quelque chose, il faut bien que ce quelque chose ait émergé pour que l'individu puisse s'orienter vers lui. Autrement dit, comment comprendre qu'on puisse s'orienter vers, ambitionner d'autres modèles que les modèles en vigueur dans sa classe d'origine. Ça, c'est quand même une énigme. Personne ne se fait de rien. Le self-made man, dira-t-on, s'est fait de lui-même, mais on se donne par avance ce lui-même dont il s'agit de rendre raison. Alors, la non-reproduction requiert de penser, en fait, des histoires imbriquées et des causes intriquées les unes dans les autres. Alors, j'insiste beaucoup sur le fait que cette non-reproduction n'est pas le produit d'une cause première et déterminante, en dernière instance, que l'on pourrait présenter comme la cause, mais d'un agencement singulier des causes multiples dont la résultante est une trajectoire. Autrement dit, contrairement à ce qu'on pourrait penser et ce que la sociologie met souvent en avant, ça ne se cantonne pas à des conditions économiques, politiques et scolaires propices, comme on a trop tendance à le croire, même si ça joue, bien évidemment. Cela implique plutôt une logique combinatoire plus vaste et plus complexe, où l'enfance, l'histoire familiale, la place dans la fratrie, l'orientation sexuelle, la vie affective, les relations amicales et amoureuses sont intégrées dans l'examen de la trajectoire. Je ne peux pas rentrer dans l'analyse complète des exemples, mais si on se réfère à l'histoire de John Edgar Wellman, qui s'étonne sur la différence de destin qu'il a pu avoir par rapport à son frère, on voit bien que des conditions économiques et sociales identiques ne produisent pas les mêmes effets, et donc elle ne saurait suffire à elle seule pour expliquer un parcours. Autrement dit, il ne suffirait pas, par exemple, de donner à tout le monde des moyens financiers pour effectuer un parcours différent, c'est sans doute une condition nécessaire, mais ça n'explique pas pourquoi dans la fratrie un tel va pouvoir poursuivre des études et son frère ou sa sœur non. Donc il faut penser autrement les choses, il faut prendre en compte l'intrication des causes et j'insiste beaucoup dans le livre sur la nécessité de prendre en compte aussi les affects dans la constitution de soi. Le transclasse, comme tout individu, est le fruit d'une complexion affective. Ce n'est pas un simple agent qui imite mécaniquement un modèle qu'il désirerait ou qui calcule rationnellement une stratégie. Comment comprendre son parcours ? Sans la honte, sans le désir de justice, sans la fierté, sans la colère et l'indignation mêlées. Comment faire l'économie de sa douleur, mais aussi de la force joyeuse puisée dans les rencontres amoureuses ou dans les figures de l'amitié. L'affect, s'il n'est pas la condition nécessaire, puisqu'aucune cause à elle seule ne suffit à tout expliquer, l'affect joue néanmoins un rôle décisif, et il me semble qu'il reste trop souvent négligé par les sociologues, bien que ça change, notamment par exemple chez Bernard Lahir, au nom d'une méfiance à l'endroit de la psychologie, comme si l'affect ne faisait pas partie du social et se réduisait à un trait de caractère donné toute éternité. Évidemment, quand je parle d'affect, je ne fais pas référence à une psychologie des caractères et une typologie de propriétés innées qui distingueraient les individus. Dans la lignée de Spinoza, l'affect est au contraire social par excellence. L'affect recouvre, pour Spinoza, l'ensemble des modifications corporelles et mentales qui touchent notre puissance d'agir, qui la renforce ou qui au contraire la menuise. Chacun est tour à tour affectant et affecté. Donc l'affect est le produit de l'interférence entre la puissance causale d'un homme et celle des causes extérieures. Il est l'expression des relations interhumaines et des échanges avec le milieu environnant. Donc l'affect, pourrait-on dire, relate l'histoire de notre rencontre avec le monde extérieur. Il s'insère dans un déterminisme du lien interactif. Il invite à penser non pas l'individu comme un atome, comme une substance, comme une monade, mais une transindividualité, c'est-à-dire un individu en relation avec d'autres individus qui le façonnent et qu'il façonne lui-même en retour. Alors, il ne s'agit pas pour autant de réduire les comportements à des types affectifs, hein, l'ambitieux ou le revanchard, etc. Ni de s'imaginer que tel ou tel sentiment produit automatiquement tel effet, mais de penser chaque fois une combinaison singulière, un nœud de détermination. Aucune détermination, en effet, n'est opérante et n'a déficience à elle seule. Ce n'est que par le croisement et le concours qu'elle peut produire des effets. Je dirais que, prise isolément, une détermination comme la honte ou la mise en place institutionnelle d'une instruction publique ou de bourse, prise isolément, une détermination, c'est un des fils possibles de la trame de la non-reproduction, mais ça ne devient une maille réelle que si elle se tresse avec d'autres déterminations. Donc, aussi bien l'existence de modèles alternatifs, la mise en place d'institutions politiques, d'aide économique, ça peut être des conditions nécessaires, mais ce ne sont pas des conditions suffisantes. Il n'y a pas non plus d'affect privilégié que l'on puisse brandir, comme la honte, même si on insiste beaucoup sur la honte sociale, parce que la honte, eh bien, comme tout affect, est marquée par l'ambivalence. Elle peut conduire aussi bien à se révolter qu'au contraire, à se replier sur soi et à s'effacer et à se résigner. Donc, les affects peuvent incliner les hommes dans des directions contraires et ils n'ont d'efficience que lorsqu'ils se combinent avec d'autres forces qui peuvent les orienter dans telle direction plutôt que telle autre. Il convient donc à chaque fois de ressaisir ce jeu de forces, la place de chacun dans une configuration donnée, les affects singuliers qu'il modifie et qui se combinent pour qu'il s'écarte du modèle ambiant et qu'il entame une trajectoire sociale différente. Et c'est la raison pour laquelle la non-reproduction mobilise une pensée combinatoire, une pensée du concours et de la connexion, requérant l'analyse d'un réseau, d'un faisceau causal. Et voilà pourquoi je me suis proposé de ressaisir ce parcours d'un individu sous le concept de complexion, plutôt que celui d'identité, de transclasse, puisque la complexion, dans la lignée de Spinoza, ça désigne le nœud de détermination qui se tisse pour produire un individu, quel qu'il soit, et pas seulement le transclasse. Bon, le terme de complexion, je rappelle qu'il a été forgé à partir de la complexion, donc c'est le préfixe con avec, et de la racine plexus, qui renvoie vers plectéré, noué, tissé. Et l'idée de complexion, ça exprime bien l'entrelacement compliqué des fils qui constituent le tissu d'une existence et qui la rattachent à celle des autres. Donc la non-reproduction, ça obéit à un schéma d'interconnexion dans lequel l'individu ne peut pas être pensé comme être isolé, qui fait sécession par rapport à sa propre classe. Un parcours atypique s'opère toujours avec le concours du milieu social et familial à la croisée de ses impulsions et de ses répulsions. On ne part pas tout seul. On est mis à la porte ou on est porté par son milieu. Donc ça peut correspondre à un projet aussi du milieu social dans lequel on se situe ou ça peut correspondre à un rejet de ce milieu. Donc il faut saisir cette dimension collective au sein de l'individualité. Le transcaste, c'est moins un héros solitaire qu'un héros porteur d'aspirations à la fois personnelles et collectives, que ça puisse être celle de la famille, du village, du quartier, de la race, de la classe, du sexe ou du genre. C'est pourquoi je pense que la non-reproduction, c'est un phénomène transindividuel et qui implique que l'on noue ensemble des déterminations économiques, sociologiques, familiales, psychologiques, psychanalytiques, tout ce qui est à l'œuvre dans l'histoire de chacun. Alors, voilà pour la pensée des causes. Donc, ça nous permet aussi de resituer le transclasse au sein la condition humaine, non plus comme une exception, mais comme un individu pris dans un réseau de causalité qui joue également pour les autres individus, puisque chacun se constitue aussi à travers tous ces fils économiques, politiques, sociaux, psychologiques, familiaux, etc., ces rencontres qui permettent de le définir. Alors, au niveau des effets à présent, bien, il me semble que le transclasse connaît une double vie, dont l'unité est pour le moins problématique. Parce que le changement est parfois tel qu'on peut se douter, se demander s'il s'agit exactement de la même personne. L'existence est placée sous le sceau de la mutation, de la mobilité, de sorte que ça rend difficile d'envisager l'existence d'un sujet ou d'un substrat qui demeure de manière invariable à travers le changement. Plus que tout autre, un transclasse éprouve le sentiment de n'avoir pas d'identité fixe et figée, mais d'être d'une complexion flottante et flexible qui s'adapte à la couleur du milieu ambiant à la manière d'un caméléon. Mais s'adapter, c'est d'abord apprendre à se défaire des habitudes anciennes, à prendre congé des mœurs en vigueur dans l'univers d'origine, pour entrer dans un univers étranger. Il s'agit donc de se délester en partie du passé, de solder des acquis, de liquider un patrimoine, en somme. Et c'est ce qu'Annie Ernaux, par exemple, résume de façon lapidaire dans La Place. Je cite là la page 111, où elle dit « J'ai fini de mettre au jour l'héritage que j'ai dû déposer au seuil du monde bourgeois et cultivé » quand j'y suis rentrée. Et là, on voit bien que l'adaptation s'implique une forme de dépôt, voire de déposition, pour pouvoir se positionner. Ça passe par une destitution des valeurs et des manières anciennes, ça implique un dépouillement de soi et une mue difficile à opérer de façon instantanée. Et c'est pourquoi un transclasse va nécessairement flotter dans ses nouveaux habits. Il ne peut pas d'emblée s'ajuster. S'ajuster, c'est impossible parce que, quand bien même il le voudrait, il est à la fois un être adapté et inadapté. Il ne peut pas faire table rase d'un coup, et parfois il ne le souhaite pas, il veut garder ses références anciennes. Il ne peut pas faire table rase d'un coup, suspendre ses comportements hein, par la pratique de je ne sais quelle sorte de doute radical à la manière de Descartes. Hein. D'abord, il n'a pas nécessairement conscience du caractère déplacé de certains de ses comportements, de ses habitudes dans son nouveau milieu, comme des impairs, hein, puisque ses comportements et ses habitudes, comme celles de tout un chacun, ont l'apparence d'une évidence naturelle. Et aussi avisé soit-il, il peut ignorer les subtilités des règles de la bienséance et de l'étiquette dans l'univers nouveau où il arrive. Et donc, du même coup, il me semble que l'une des conclusions que l'on peut tirer de cette réflexion, c'est que la non-reproduction, ça met clairement en évidence les limites de l'idée d'identité et du classement des individus en catégories sociales fixes. Parce qu'ils ne permettent pas, ces concepts d'identité ou de classement de catégories sociales, ne permettent pas de rendre pleinement raison du parcours des transclasses et de leur singularité. Pour penser leur complexion, il faut prendre des distances avec l'appareil conceptuel classique et peut-être en opérer la critique. L'identité, qu'elle soit personnelle ou sociale, elle présuppose l'existence d'individus qui restent les mêmes et qui sont réductibles à un certain nombre de caractères persistants malgré le changement. Bon, quelle que soit la définition qu'on lui donne, elle implique toujours la reconnaissance d'un substrat qui demeure à travers toutes les modifications. Que ce substrat soit pensé sous la forme d'un moi substantiel, de la personne, du sujet, etc., il se présente dans tous les cas de figure comme une sorte de noyau immuable résistant au changement. Alors la tendance à vouloir définir les individus par des caractéristiques constantes qui les différencieraient des autres conduit ainsi à l'élaboration de principes d'identification comme les classements en genre, sexe, race ou classe. Or, les transclasses nous montrent qu'il n'est pas certain que les êtres humains possèdent une identité, du moins fixe, hein, qui serait comme une carte de visite permettant de les reconnaître ou de leur conférer un statut. Force est d'admettre que ces individus qui ne reproduisent pas ont nécessairement une identité flottante et fluctuante parce qu'ils ne sont pas assignables sans reste à leur milieu d'origine, parce qu'ils se démarquent de leurs semblables. C'est le changement et la mutation qui régissent leur existence. Et je dirais que loin de se caractériser par une identité, ils se caractérisent surtout par un processus de désidentification ou d'identité multiple, de déprise qui les arrache à leur famille, à leur classe. Alors cette désidentification, ça ne se réduit pas nécessairement à l'étape temporaire à travers laquelle ils conquièrent une nouvelle identité, parce qu'ils ne sont pas assimilables in fine à leur milieu d'arrivée. Pourquoi ? Eh bien, soit ils peuvent être rejetés par ce milieu d'arrivée parce qu'ils n'en ont pas toutes les caractéristiques, et quand bien même ils seraient acceptés par ce milieu d'arrivée pleinement et sans reste, eh bien, ils portent immanquablement les traces du milieu d'origine, ne fût-ce que celles de l'histoire passée. Et quand bien même ils ne renieraient pas leur milieu d'origine et seraient adaptés à leur milieu d'arrivée, ils ne seront jamais assimilables totalement à leur milieu d'origine, en raison de leur parcours, ni à leur milieu d'arrivée, à cause de leur histoire, parce qu'ils n'auront jamais le même patrimoine commun que ceux dont ils vont pourtant partager la condition. Et donc les transclasses remettent en cause des principes statiques de division des individus en catégories sociales bien délimitées. Ils remettent en cause le postulat d'une identité fixe, parce qu'il est bien malaisé de leur assigner des propriétés ou des qualités qui les font reconnaître comme appartenant à telle classe ou à telle autre. Il en résulte une difficulté parfois à se situer. Donc on peut garder justement des liens avec son milieu d'origine, mais appartenir néanmoins à une nouvelle classe sociale, du moins économiquement, petite bourgeoisie ou grande bourgeoisie, sans pour autant adopter totalement les mœurs ambiantes en raison de cette histoire passée et des liens qu'on continue à conserver. Alors, c'est pourquoi je préfère parler de complexion plutôt que d'identité, parce que ce concept de complexion s'incite à prendre en considération ces différences fines, la manière dont chaque individu noue et dénoue les liens qu'il a pu entretenir avec sa famille, son histoire, son milieu et le nouveau milieu. Il s'agit, au fond, d'appréhender donc la constitution d'un individu comme déconstruction d'abord du moi personnel et social, avant de penser une reconfiguration. Donc le changement de classe sociale, ça ne se résume ni à un transfert des habitus d'une classe dans l'autre, ni même à un troc, ni même à une transplantation, parce que les dispositions premières sont parfois mises en sommeil ou restent au contraire en travail et sont modifiées et refondue au contact du milieu d'évolution. Et donc, ça engendre une reconfiguration qui ne se réduit ni à une addition des habitus, ni à leur hybridation. Ça prend la forme d'une construction permanente et d'une déconstruction à travers les tensions de la transition. Et il me semble que ce qui est intéressant et ce qui permet philosophiquement de rattacher le transclasse à la condition humaine tout entière, c'est que le transclasse apparaît comme une figure exemplaire de la désubstantialisation de l'ego, hein, Il radicalise l'expérience de l'inconsistance du moi et de ses qualités à laquelle Pascal conviait tout un chacun dans ses pensées. Et cette expérience de dissolution du moi que Pascal met en place dans le fragment 688, que je n'ai pas le temps de rappeler ici, cette expérience de dissolution du moi est intéressante parce qu'on voit comment le prétendu moi, dépouillé de ses qualités, qui se fait centre de tout, eh bien, qui croit être partout, ne se trouve nulle part. Et c'est bien la difficulté qui touche aussi le transclasse, c'est qu'il n'est ni de son milieu d'origine ni de son milieu d'arrivée, il est aussi de son milieu d'origine et de son milieu d'arrivée, il est dans une logique à la fois du ni-ni et du soi-soi, ce qui fait qu'on ne peut jamais lui assigner une place fixe, il est partout et nulle part, d'une certaine manière. Le transclasse est par définition un être de passage, un être passager qui quitte son milieu, émigré de l'intérieur, dit Annie Ernaux, qui va s'en éloigner tout en restant souvent un étranger dans la sphère d'arrivée. Donc un transclasse ne peut être compris que dans ce mouvement du passage par lequel il fait l'expérience d'une transidentité, de la dissolution du moi personnel et social. Il se déclasse au risque d'être toujours déplacé. Et c'est cette posture fluctuante et ces variations entre écart et écartèlement que le concept de complexion, à mon avis, permet bien d'appréhender. Comment ça se noue, ça se dénoue, ça se tend, ça se détend, donc dans une complexion qui est parfois en tension à cause de la bigarrure, à cause, pourrait-on dire, de l'hybridation. Et de ce point de vue, il me semble que l'existence des transclasses obéit moins à une logique de l'exception. On était parti de cette idée, initialement, dans la lignée de Bourdieu. Il me semble qu'il obéit plus à une logique de l'écart par rapport aux autres individus. D'abord, la non-reproduction du modèle social d'origine, ça n'a rien d'une anomalie, puisque ça s'explique par des causes, qui conférerait un statut à part, soit l'aura du héros qui a vaincu son destin et les verdicts sociaux, soit la mise au banc du Judas qui renie ses origines parce qu'il veut s'élever et qui méprise ses frères qu'il a laissés derrière lui. Il semble plutôt que la non-reproduction soit, à travers les transclasses, comme la radicalisation du travail de la différence au sein du même, de l'effort de déprise par lequel chacun, tous les hommes, quels qu'ils soient, s'efforcent de s'affirmer dans leur être singulier en s'écartant des modèles en vigueur et du mimétisme absolu. Aucune existence n'est pure reproduction, parce que la copie n'est jamais le modèle. Elle le double, elle le redouble, mais ce faisant, elle le trahit ou le traduit selon son expression propre. Et c'est pourquoi il y a toujours nécessairement une marge et du jeu, aussi infime soit-il. Et donc, toute existence humaine pourrait se définir par une pratique de l'écart différentiel, parce qu'elle oscille toujours entre les deux figures minimales et maximales du conformisme et de l'originalité par rapport aux normes données. Donc, de ce point de vue, le transclasse n'échappe pas à la règle. Et sa trajectoire peut être appréhendée en fonction de la distance qu'elle introduit par rapport, d'une part, aux habitus de la classe d'origine, mais aussi par rapport à celle de la classe d'arrivée dans laquelle il va aussi produire des effets. Et en ce sens, on pourrait dire qu'un transclasse peut cesser d'être une exception pour devenir une norme, parce qu'il peut être compris comme un archétype de la condition humaine, donnant à voir de façon peut-être plus prononcée ce travail de différenciation de soi et des autres qui est opéré avec eux ou contre eux pour se définir, puisqu'il s'agit toujours d'essayer d'affirmer une singularité à travers différence et répétition, mimétisme et non-reproduction. Et j'en viens à penser, avec un peu de recul par rapport à l'ouvrage, que loin d'être une loi première des sociétés, la reproduction n'est en somme que de la non-reproduction empêchée. Merci pour votre attention.
Merci Chantal pour cette présentation de ton livre qui en montre vraiment tous les intérêts et en même temps d'un chemin depuis l'écriture du livre pour nous faire penser le transclasse non pas seulement comme un écart mais comme un écart je dirais universalisable et donc en un certain sens pour une norme. Je vais laisser la parole à la salle pour qu'elle discute tes thèses. Peut-être ai-je envie de quand même commencer par une question qui n'est pas du tout importante, mais qui est importante peut-être simplement pour moi. Je crois que j'aurais tendance à dire qu'il y a un moment cartésien du transclasse, à savoir, alors je pourrais prendre d'abord le cogito, je crois que la question de, enfin le moment du transclasse me semble être peut-être avant la question de la honte, je ne sais pas, un moment de désarroi dans la confrontation de valeurs différentes. Et tout d'un coup, peut-être d'un moment de suspens dans la conflagration, peut-être, de valeurs différentes qui peuvent être rencontrées. Peut-être, ça peut être la figure de la honte, mais il me semble que le moment de la confusion de la pensée, au fond, du doute quant à ce qui serait vrai pour soi ou quant à ce qui serait vrai, et peut-être un moment où on dit finalement je n'ai pas d'autre certitude que d'une certaine façon je suis, j'existe, et donc de reconstruire à partir de là ou de construire à partir de là un cheminement me semble être un moment important. Alors voilà, j'avais envie de plaider pour un moment cartésien du transclasse, même si je suis tout à fait d'accord avec la thèse que tu soutiens, à savoir que le passage et le cheminement du transclasse suppose une conception trans-individuelle. Néanmoins, j'ai comme l'impression que la solitude, qu'il y a un moment de solitude à titre affectif, qui me semble saisir le transclasse pour le mettre en mouvement. Alors voilà, moi je suis dans la question du commencement. Peut-être aussi parce que donc, tu évoques un certain nombre de entre guillemets, communautés ou de collectifs. Ça peut être l'école, ça peut être la famille, ça peut être le village qui porte ces transclasses, etc. Et puis il arrive aussi qu'au fond, le collectif auquel tu appartiens ou auquel on appartient, on ne le reconnaisse pas comme son propre collectif. Et ce moment est un grand moment de solitude. Et quand il y a passage, comme tu expliques avec cette phrase de Michelet, il ne suffit pas de monter, il faut savoir rester soi, il faut rester soi. Tu critiques cette notion de soi, mais quelque part, résiste quand même quelque chose du soi qui est celui aussi qui se met en chemin. Ce n'est pas une substance, mais c'est un petit moment de vacillement. Des cogito comme mouvement de vacillement. Je voulais savoir ce que tu en pensais, si tu pouvais quand même arracher un bout de Descartes pour l'emmener avec les transclasses.
Alors, merci Kim d'abord pour cette suggestion qui me paraît tout à fait importante parce que ce qu'il y a à distinguer dans un parcours, c'est la manière dont il se présente à une conscience, c'est-à-dire la manière dont on comprend sa propre trajectoire et ensuite, à travers toutes ces figures différentes de la conscience, ce qui se joue en réalité et dont on prend conscience petit à petit. Et il me semble que tu as tout à fait raison d'insister sur cette phase que tu appelles moment cartésien, qui est la phase que je qualifierais en termes spinoziste de la fluctuation animi, mais qui est présente chez Descartes également, c'est-à-dire le moment où, confronté à une altérité, une différence radicale, ce que l'on avait toujours considéré comme des valeurs ou comme des habitudes, se heurte à la différence et la différence qui vient questionner l'identité première, en faire douter, mais douter à travers d'une souffrance. C'est-à-dire, ce qui se pose et ce qui se joue souvent, c'est la question de la place, de la légitimité, de la valeur des habitudes anciennes, d'une forme pas nécessairement de honte, mais en tout cas d'interrogations profondes concernant ce que c'est que l'être humain, pourquoi, bon, on le voit dans l'interrogation de John Edgar Wineman, est-ce qu'il vaut mieux choisir telle posture que telle autre? Et il paraît évident au départ que l'ascension sociale apparaît comme une valeur. John Edgar Wineman nous amène à nous poser la question en disant qu'au bout du compte, quand il dialogue avec son frère, il se dit « mais moi j'ai suivi une position qui était celle de mes propres désirs, celle de ma famille, mais je suis devenu un universitaire conformiste. Mon frère derrière les barreaux, qui a une existence extrêmement difficile, qui ensuite commence dans la prison à se former pour devenir ingénieur, il n'a aucun espoir d'être ingénieur un jour, et son frère trouve une forme de joie de vivre, de force et d'énergie, et l'écrivain reconnu, célèbre, en vient à l'envier, à être jaloux du frère. Il se pose la question de savoir qu'est-ce qui vaut au juste. Hein. Et donc, dans la confrontation, on peut se demander si cette altérité qui amène à se dépouiller d'un certain nombre de valeurs, à essayer de s'adapter, si elle est vraiment légitime ou pas. Donc, il y a un moment de grande souffrance. Un moment de doute qui peut être un moment de grande souffrance, un moment de solitude. De la même manière, alors si je dis que ça se fait toujours en relation avec un milieu, c'est pas parce que le milieu vous aide, c'est au contraire qu'il vous entrave. Bon, dans le cas de, par exemple, de Didier Ribon, c'est la honte de découvrir qu'il est homosexuel, le rejet de sa famille, mais qui le constitue en partie et qui l'aide à s'orienter vers d'autres modèles, parce qu'il n'a pas d'autre issue, il faut qu'il parte. Donc il est mis à la porte, littéralement, même si ça n'est pas dit comme tel, c'est ce qui se joue de façon sous-jacente dans son parcours. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement la manière dont chaque fois le parcours apparaît à la conscience, et puis ce qui se joue derrière. Et l'un des motifs qui m'a décidé à écrire ce livre, c'était l'idée de briser une solitude. Ce qui me frappe aussi, après coup, c'est de la même manière que c'est une forme de libération pour les homosexuels de sortir du placard et de dire voilà, on revendique une fierté gay. Certains qui n'avaient jamais dit, je pense dans le milieu que je fréquente, certains qui n'avaient jamais osé sortir du placard social et comprendre leur propre parcours, les sentiments de solitude, les types de comportements, le fait que par exemple ils n'osent pas, ils ne se sentent pas légitimes dans une bibliothèque ou dans un lieu de culture où ils ont toujours le sentiment d'imposture, alors qu'ils l'interprétaient comme un trait de caractère, comprennent que c'est une configuration de leur parcours et que c'est quelque chose qui est une condition partagée. Donc il y a aussi une manière de briser la solitude que l'on vit comme grande souffrance, et le fait de comprendre que ce passage se fait parfois dans la douleur, ça ne supprime pas pour autant la douleur, mais ça permet de donner des clés d'intelligibilité, de comprendre pourquoi on souffre et qu'est-ce qui se joue derrière. De la même manière que, par exemple, Didier Ribon confesse qu'il lui a été plus facile, lui, d'avouer qu'il était homosexuel que de dire qu'il avait un père ouvrier, initialement communiste, puis ensuite votant Front National. Donc la honte se déplace, hein, et la fierté gay cache la honte sociale. C'est aussi une question de contexte historique. À une époque, on pouvait plus facilement revendiquer ses origines sociales. On apparaissait comme l'un des exemples de la mobilité sociale revendiquée par la société pendant les Trente Glorieuses. Et puis ensuite, quand on revient ensuite, le règne de la fortune et des banques, c'est plus à la mode de pouvoir dire qu'on est homosexuel que de dire qu'on est fils de bouseux. Donc voilà comment ça se joue. Mais je pense qu'effectivement, il y a ce moment cartésien, c'est-à-dire un moment où une conscience est déchirée. Ça peut être aussi une figure hegelienne de la conscience malheureuse. Et il faut essayer de comprendre, au fond, comment dépasser ce stade-là. Et comme tu as rappelé pour Michelet, le plus difficile n'est pas de monter, mais en montant, de rester soi. Qu'est-ce qu'être soi-même et comment se constituer comme soi? Comment être autre sans être aliéné? Voilà, c'est là tout l'enjeu aussi du parcours de la tranche classe.
Eh bien, je vous remercie pour votre présence. Et puis, à la prochaine fois, le 7 avril, nous recevons Pierre Macheret pour son livre sur philosophie, littérature, et c'est sur Proust. Donc, vous êtes chaleureusement invité. Merci beaucoup.